Mesdames, Messieurs, bonjour. Eh bien, c'est avec grand plaisir que je vois que mon appel au peuple a été massivement suivi. Et j'ai un concurrent tout à fait redoutable, c'est le soleil. Donc, merci d'avoir choisi de venir écouter la vie de votre association chérie. Donc, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Maxime Ravenet, donc qui est adjoint à la vie associative et de la démocratie locale. Je ne sais plus exactement votre titre et j'ai déjà oublié votre nom. Oui, mais Madame Françoise Vaillant, qui représente le conseil départemental. Nous sommes très honorés d'avoir cette présence. Et donc, on va y aller directement, point de préliminaire. Donc, je pose mon masque. Bien, c'est bon là. On ne peut pas commencer sans parler de ça. Je m'excuse, mais donc on parlera de l'année qui vient de se passer, qui, comme toute activité humaine, a été impactée par la pandémie. Alors, ordre du jour classique des assemblées générales d'associations. Je ne le lis pas, vous le connaissez, c'est la liturgie habituelle. Et donc, je vais dire la messe. Donc, je commence le rapport moral du président. Donc, avant de commencer, je représente, pour les personnes qui ne le connaissent pas, mais beaucoup, donc nos deux vice-présidentes qui sont Françoise Rassovleff, qui est ici présente, qui va rédiger le compte-rendu de cette assemblée, et Michel Beaumont, là-bas, et vous voyez Liliane Doutet, au centre, qui est la secrétaire de l'association. J'excuse Jean-Charles Borne, qui est empêché aujourd'hui, donc je ferai office de trésorier, c'est moi qui vous commenterai les comptes. Voilà. Rien oublié. Donc, alors... Je rappelle un petit peu la séquence des événements que vous avez tous en tête. On a démarré, on va dire normalement, au mois d'octobre 2020. Et on a appris, donc, au mois de novembre, qu'il y avait un confinement. Là, on a balancé entre « on arrête tout » et on recommence l'année suivante, où on va essayer de faire quelque chose. Donc on a pris la décision, on va essayer de faire quelque chose. C'est rarissime, puisque beaucoup de nos collègues ont décidé de ne rien faire, et donc ont arrêté toute activité sans savoir comment tout ça allait se passer. Évidemment, la seule façon de tourner la difficulté, c'était d'utiliser les visioconférences. Et donc, on utilise Zoom, comme vous le savez tous maintenant. Pour être très honnête, au mois de février 2019, je ne savais même pas que cette bête-là existait, à titre personnel. Donc, on a appris à se servir de cet outil. Et ensuite, on avait une petite difficulté technique, c'est-à-dire on voulait non seulement, bien sûr, proposer la conférence en direct, comme ça se fait dans beaucoup d'organismes, mais également l'enregistrer et la proposer en replay, comme on fait à la télévision, sur notre site. Petite difficulté technique et organisationnelle, il faut que cette vidéo soit exclusivement réservée à nos adhérents. Ce qui n'est pas un mince défi, puisque vous savez que sur les plateformes vidéo, a priori, tout est ouvert. Si on veut protéger, il faut passer par des systèmes de mots de passe, mais des systèmes de mots de passe des plateformes vidéo, compliquées et dont on n'a pas la maîtrise. Nous avons la chance d'avoir un système de protection par mot de passe sur notre propre site et on a trouvé la solution technique, je ne rentre pas dans le détail, pour faire que le filtre d'accès aux enregistrements de nos conférences soit uniquement réservé à nos adhérents. Et comme ça, donc là, on a commencé début janvier 2021. On se mélange un peu les pinceaux dans les années. Et on a réussi à faire 66 conférences en visioconférence et enregistrées en replay. Nous sommes les seuls en Bourgogne-Franche-Comté à avoir fait ça. Même l'université ne l'a pas fait pour une raison très simple. Vous savez très bien que le public ne peut pas accéder au système informatique des universités. Donc le système qu'on pouvait mettre en place, nous, ne pouvait pas être mis en place, même s'ils avaient voulu le faire, puisque c'est un système public, on ne pouvait pas le faire. Donc nous sommes les seuls à l'avoir fait. On a beaucoup transpiré, on a beaucoup eu de frayeurs, on va dire, avec des frayeurs informatiques, vous connaissez tous ça, hein. Mais globalement, ça s'est pas mal passé. Donc, ces conférences étaient de trois types. Des conférences qu'on a réussi à prendre en Zoom ici, avec le Wi-Fi du téléphone. On a réussi deux fois. On a essayé 5 ou 6 fois, on a réussi 2 fois. Ça a bien marché. Sauf que l'audio là-dedans, c'est une véritable catastrophe. On ne comprend rien si on prend l'audio du PC. La solution miracle, c'est d'utiliser ça. Sauf que Zoom, faut faire des bidules et des machins pour que ça se dise pas zut avec l'audio du PC. On a réussi, c'est l'essentiel. Et donc, cette formule-là, on l'a faite dans une de nos salles, dans nos locaux. On va dire, il y a à peu près la moitié des 66 conférences qui ont été faites avec un public, technicien compris et conférencier compris, de 7 personnes dans la salle. Mais certains conférenciers disaient « Non, moi, faire de la visio, ça me casse les pieds, je n'ai pas de retour visuel du public. » Même si le public n'est constitué que par 3 personnes, ces 3 suffisent. Et d'ailleurs, on le voit sur les enregistrements. On voit le conférencier qui ne regarde pas la machine, mais qui s'adresse à des personnes qui sont en diagonale par rapport à la machine. Donc ça veut dire qu'il a besoin d'avoir un dialogue visuel avec le conférencier. Et puis les autres, c'est les gens qui étaient paresseux ou qui l'ont fait chez eux. Et donc ils ont dit on l'a fait, mais on ne le fera pas. Hein. C'est casse-pied parce que justement c'est très impersonnel. Et en plus, je fais allusion par exemple à M. Ancet, qui est le directeur de l'UTB à Dijon, qui nous a dit « Je suis très mauvais en visioconférence, parce que je ne vois pas mes élèves. Hein, » voilà. Surtout pour la philosophie, il faut voir les élèves. C'est un philosophe. Donc, voilà, n'en disons pas plus. On est quand même très satisfait après des sueurs froides intense d'être arrivé à faire ça. Et donc, on a une maîtrise maintenant de l'outil qui est tout à fait réelle. On a même fait mieux le mois dernier, c'est qu'on a retransmis en direct la visio ici. Et ça s'est passé impeccablement, avec aussi quelques transpirations. Et, parce qu'il y a des problèmes d'écho, de couplage entre les machines, enfin, je ne rentre pas dans le détail technique. Mais c'était... bon, on y est arrivé. On va recommencer au mois de novembre pour une conférence, puisque la conférencière est à Quimper. Donc, c'est quand même pas la porte à côté. Donc, on a maintenant une palette assez large de possibilités techniques qui nous donne une ouverture, si vous voulez. Alors, en dehors de ces activités de conférences qui sont la base de notre existence, de notre vie, nous avons bien sûr annulé tous les voyages, comme tout le monde, et les sorties. Et pour les groupes et ateliers, on a fait le service minimum. Pour essentiel, les conférences d'histoire de l'art de Mathieu Pinette, je rappelle qu'on a 3 sessions de 5 séances chaque année. Donc on a réussi, après chercher des salles, enfin je vous passe tous les détails, à Janzé, à faire 2 sessions de 5 séances, donc en février-mars 2021. Voilà. Bon, donc on a fait au mieux, et puis dans les quelques cours de langue qu'on a pu faire, on a fait ça avec 4 personnes dans nos locaux, donc avec la distanciation, les masques et tout et tout. Voilà. On a fait beaucoup d'ateliers en visioconférence, en particulier la dictée, qui est animée par Liliane Douté. Donc on a fait 14 dictées en visioconférence avec une assiduité remarquable, remarquable. Entre 12 et 15 personnes, hein, malgré les aléas des connexions et des choses comme ça, je viens, je repars et tout et tout. Enfin bon, ok, qui sont enregistrés et qui sont disponibles sur le site. 3 réunions sur éthique et société, 5 réunions économie et géopolitique, 2 ateliers de lecture et. Quelques, alors je n'ai pas compté le nombre de fois, quelques ateliers de conversation anglaise. Donc, je vous l'ai déjà dit, ça, nous avons appris à nous en servir, et donc on utilise la plateforme Vimeo, qui n'est pas la plateforme YouTube. Vimeo a une possibilité justement de faire d'abord de masquer votre vidéo pour le grand public, et deuxièmement, de faire que seuls les gens qui viennent du site UTB puissent y avoir accès. Voilà. C'est comme ça qu'on a pu résoudre le problème de l'accès sélectif. Bien sûr, il faut, quand on prépare une nouvelle année, je rappelle que notre processus d'établissement du programme, on fait ça avec un comité de programme, dont vous avez quelques personnes éminentes autour de moi, mais il y a d'autres personnes dans les adhérents qui en font partie. On est 6 ou 7 personnes. Et donc, on fait des réunions de décembre à mars pour sélectionner les sujets qu'on va proposer l'année suivante. Et donc, tout ça, on l'a fait en visioconférence, évidemment. Et on a fait, on a réalisé la composition de la plaquette. Vous n'oublierez pas de me la demander pour qu'on vous la donne à la sortie. Évidemment sur le cloud, et pas en visio, mais sur des outils sur le cloud. Et on a fait imprimer notre plaquette chez un imprimeur physique qui est à Dijon, hein, mais en travaillant complètement sur Internet et sur le cloud. Et c'est extraordinaire, on y est arrivé. Donc on a eu nos plaquettes à l'heure habituelle, c'est-à-dire à la mi-mai, sans autre forme de procès. Au mois de juin, comme ça se décoinçait un petit peu, on a pu faire quelques réunions physiques, disons, dans l'espace Janzé, très espacées, mais tout le monde a témoigné de la... du retour à une certaine forme de normalité. Donc les gens qui étaient très satisfaits, bien sûr. Moi aussi. Donc, je rappelle la grille de tarification. Donc, on s'est beaucoup creusé la tête en disant qu'est-ce qu'on va proposer pour l'année qui vient. Alors, je rappelle que le tarif, on va dire « normal », entre guillemets, c'est 90 euros hein, pour assurer notre équilibre financier. On a dit, ben, on va quand même tenir compte du fait qu'il y a eu des perturbations. Ce n'est pas de notre fait, mais bon, tout le monde est impacté, en particulier les adhérents. Donc, on a mis un tarif de base à 80 euros, avec la petite ristourne pour adhésion au mois de juin, comme c'est le système qu'on a depuis des années, hein, pour inciter un petit peu des inscriptions enfin, très rapides. Et donc, on a dit qu'il faut quand même qu'on parle des 90 euros. Donc, on a inventé une cotisation de soutien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le tarif normal. Vous êtes conscient qu'il y a eu des perturbations, mais vous voulez que l'UTB ait les ressources qui lui permettent de se sustenter pour la suite. Donc, faites un petit effort pour... bon, c'est symbolique, hein, mais donc j'avais dit, bon, moi, connaissant un petit peu nos adhérents, on va avoir une centaine de gens qui vont payer la cotisation de soutien. Eh bien, il y a 260 adhérents qui ont payé la cotisation de soutien, c'est-à-dire plus que ceux qui ont payé la cotisation normale. Donc, j'applaudis parce que je les remercie publiquement. Donc, ça nous fait chaud au cœur, en dehors de faire chaud à notre compte en banque. Ça nous fait vraiment chaud au cœur parce que c'est un encouragement à tous les efforts qu'on a fait. Bon, les autres tarifs sont inchangés. Oui, quand on votera le rapport moral, comme d'habitude, la grille de tarification fait partie du package. Disons rapport moral et ça vaut approbation de la grille des tarifs. Hein. Mais donc vous le mettrez après ça. Hein. Donc vous savez que nous avons un site, des sites même, enfin un site public qui est celui-là. On a fait une modification. De mettre, ça on nous le demandait depuis longtemps, un HTTPS, c'est-à-dire c'est encore de la technique, c'est de faire que les flux entrants et sortants sur notre site soient cryptés de telle manière que vous n'ayez pas le message qui vous injurie en disant ce site n'est pas protégé. Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, en fait, la vraie raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'à terme, on va mettre un système de paiement en ligne. Hein. Et donc, si, pour avoir un paiement en ligne, il faut qu'on ait cette fonctionnalité qui soit sur le site. On a beaucoup fait de mailing ciblé, puisqu'on a un outil qui va pas mal. Hein. Et c'est celui qui vous harcèle en permanence pour vous dire « téléchargez le bulletin ». J'en reparlerai. Télécharger le bulletin et voilà telle ou telle information sur l'activité de l'UTB. Alors pour couronner cette année catastrophique, on a eu un sinistre majeur. Vous l'avez entendu dans les journaux, c'est l'incendie d'OVH à Strasbourg. Évidemment, notre site était sur la plateforme OVH à Strasbourg. Alors, nos serveurs n'ont pas cramé, mais c'était du pareil au même, c'est qu'on n'avait pas accès. Dans notre malheur, notre prestataire local avait une sauvegarde de 15 jours précédente. Ouf ! Et on a pu récupérer notre affaire. C'est pas à Chalon que je vais faire la morale, puisque en même temps, il y avait le sinistre majeur, disons, de l'attaque informatique sur tous les services du Chalon et de Grand Chalon. Donc, c'est la loi de l'embêtement maximum. Je suis poli. Hein, voilà. Bon, le boulet passe si près que le cheval fit un écart en arrière. Voilà, je, voilà. Je cite mes classiques. Voilà. Et que le chapeau tombe, mais j'ai plus de chapeau. Hein, voilà. Donc, et finalement, on a décidé de, enfin, on, en accord avec notre prestataire, de changer de prestataire d'hébergement. Nous sommes chez un autre prestataire. Bon, passons. C'est notre salade interne. Je rappelle que depuis, OVH a eu déjà encore deux incidents majeurs. Hein. Je ne sais pas si vous suivez cette actualité dans les journaux, donc c'est un peu difficile. Ah, évidemment, tout ça, c'est bien gentil. La Chalon pourrait en témoigner. Et toutes ces péripéties, en dehors du stress que ça nous provoque, évidemment, ça fait des dépenses supplémentaires qui n'étaient pas prévues, bien sûr. Évidemment, je vous l'ai dit, on a annulé tous les voyages et les sorties. On n'a pas fait de nouvelle édition. Je rappelle pour les personnes qui ne savent pas, nous sommes éditeurs d'ouvrages, soit d'ouvrages qui ont été composés par... en particulier, vous en voyez au moins une, là. des groupes Patrimoine écrit de Bourgogne, hein, et les colloques de nom que l'on a fait dans le temps. Hein, et notre réputation d'éditeur, extrêmement modeste, mais elle a fini par tomber dans quelques oreilles intéressées, et nous avons accepté d'éditer des livres qui concernent l'histoire locale, hein, sur Niepce, sur Rambuteau, etc., etc. Comment ? Oui, Rambuteau, c'est nous. Oui, mais ah ben oui, vous. Autant pour moi. Oui, Germol, voilà, Germol. Les Seigneurs de Germol. On a édité une plaquette sur les Seigneurs de Germol qui raconte l'histoire de Germol avant les ducs de Bourgogne, voilà, puisque le château n'est pas sorti par miracle. Mais c'était déjà un problème de dette, parce que les seigneurs de Germol étaient endettés jusqu'au cou, comme tous les seigneurs, et les prêteurs qui étaient, eh bien évidemment, les ducs de Bourgogne. Vous ne pouvez pas payer, on ramasse Germol. Mais c'était bien parce qu'ils en ont fait quelque chose de bien. Hein, voilà. Oui, les livres de Jean-Claude Malard sur l'histoire industrielle de Chalon. Voilà. Ces livres, c'est intéressant de faire des livres, mais encore faut-il les vendre. Et donc, on a depuis quelques années mis en place une structure dont Michel Beaumont s'occupe avec attention et dynamisme. Et oui, oui, elle est là, Jeanne-Marie, elle est là. Elle est là, elle est là. Donc, voilà, Jeanne-Marie. Donc, voilà. Et donc, voilà un peu la... On a à peu près 1000 ouvrages en stock. Et on... Alors, vous... D'habitude, on vend 100-150 ouvrages par an, hein, dans une année normale, évidemment. L'année du Covid, pas terrible. Hein. Donc, voilà. Donc, il faut aussi ne pas vouloir faire des livres pour le plaisir d'en faire. Il faut aussi qu'on les écoule, hein, qu'il y ait un flux. Hein. Et l'expérience montre, maintenant on a une petite expérience, le livre se vend bien l'année de la parution. C'est la même problématique que tout éditeur. Y a un effet d'emballement au moment de nouveauté, et puis après, il faut vraiment pousser pour finir la vente. Ah, le gros problème, le voilà. C'est que, eh bien, aujourd'hui, c'est encore pire que l'année dernière. C'est encore pire que l'année dernière. Donc, nous avons moins d'adhérents que l'année dernière. Et on prévoit une situation un peu catastrophique sur l'exercice qui va venir. J'y reviendrai plus dans le détail. Je rappelle qu'on a beaucoup d'activités complémentaires. je vous fais grâce de les lire. Elles sont fort nombreuses. Elles ont été modestes pendant cette année de Covid. Le témoignage, c'est ce tableau-là. Je ne veux pas non plus le commenter. Vous pourrez le regarder. Bien sûr, toute cette présentation sera sur le site. Donc, les chiffres détaillés. Et donc, c'est simplement la traduction du fait que l'activité a été très en retrait par rapport à une année normale. Mais encore une fois, on a eu la volonté de faire le maximum de ce qu'on pouvait faire avec les contraintes que l'on avait. Alors, il y a ce que l'on souhaite faire, nous, et il y a ce que les adhérents souhaitent faire, c'est-à-dire participer au groupe. La dictée où il y a 40 personnes d'habitude, ou 35, il n'y en avait plus que 15, même avec la visioconférence. Donc, il y a manifestement un bloc d'adhérents qui est très frileux pour des tas de raisons, et je ne sais pas le... ou ils n'étaient pas équipés, ou alors, s'ils étaient équipés, ça leur cassait les pieds. Et pour les quelques activités qui étaient en présentiel, eh bien, ils ne souhaitaient pas venir y participer pour des raisons qu'on peut bien comprendre. Voilà. Tout ça, c'est bien, mais évidemment, la conséquence, c'est que la ressource financière, on n'est pas spéciaux à ce point de vue-là. Je me retourne vers Maxime Ravenet. Toutes les associations sont confrontées exactement à la même difficulté. Alors, les investissements, évidemment, zéro, ou que ce qui est absolument nécessaire, mais j'y reviendrai. Parce que là, c'est le rapport moral jusqu'à fin mai 2021. Depuis, nous sommes en novembre, de fin mai 2021, maintenant, il s'est passé encore des choses, et je vais vous en parler après. Alors, je fais un petit stop sur cette planche que j'ai mise depuis quelques années dans l'AG, qui ne rencontre pas un écho puissant parmi les adhérents. Comme nous enregistrons toutes nos conférences, nous sommes les seuls à le faire. Et ces conférences sont uniquement destinées aux adhérents de l'UTB. Donc, elles ne sont pas diffusées dans le public, dans le cloud. Nous avons constitué un patrimoine tout à fait considérable et tout adhérent de l'UTB a vocation à y avoir accès. C'est-à-dire, quand vous êtes adhérent de l'UTB, bien sûr, vous venez écouter les conférences, c'est sympa parce que vous voyez les conférenciers, vous voyez le président qui parade et qui raconte des bobards. Y a du spectacle, si vous voulez. Mais, écouter une conférence dans sa machine, c'est pas très fun par rapport au live. Mais, ça peut être intéressant. Notre patrimoine, ce sont toutes nos conférences, mais c'est également toute notre bibliothèque. Je rappelle qu'on a une bibliothèque tout à fait considérable, et alors là, on est toujours très déçus, c'est Michel et Jeanne-Marie là, qui s'en occupent. On fait une séance tous les mois pour essayer d'attirer les gens pour venir emprunter tel ou tel ouvrage. On ne peut pas dire que ça se bouscule au portillon. Et ça, je le dis d'une façon régulière. Donc, c'est la seule occasion de pouvoir le redire. Venez faire un petit tour pour fouiller dans les rayons sur les 600 ouvrages. Ça m'étonnerait bien qu'il n'y en ait pas un qui vous intéresse. Donc, il y a des ouvrages qui nous ont été donnés pour l'essentiel, ou légués, hein, parce qu'on a eu des héritages. Mais il y a 20% qui sont des livres qu'on nous a donnés ou qu'on a achetés pour des raisons particulières ici ou là, qui peuvent être intéressants, qui ne sont pas faciles à trouver dans le commerce, si vous voulez, même sur Amazon. Hein, voilà. Même sur Amazon. Voilà. Alors, ça se termine, le rapport moral, par la fin de la messe, hein, Ite missa est. C'est les remerciements pour tous ceux qui nous aident. Au premier chef, bien sûr, la ville de Chalon, qui, je le rappelle, nous met à disposition gratuitement les salles municipales. Et ça représente financièrement, il y a des valorisations qu'ils ont faites, quelque chose comme 25% de notre budget. Donc c'est tout à fait considérable. Hein. Si on était obligé de louer les salles municipales, il faudrait qu'on mette la clé sous la porte. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc merci encore à la ville et à tout le système municipal, au Grand Chalon, puisque le Grand Chalon nous aide aussi un petit peu. Bien sûr, les conférenciers, les animateurs, les bénévoles et tout l'écosystème culturel de Chalon. Hein. L'IUT, alors l'IUT, je l'ai laissé parce que, bien qu'on n'y soit pas allé, pour des raisons bien évidentes, mais l'IUT, c'était aussi une de nos destinations favorites. Voilà, donc on est copains avec tout le monde. Je le dis d'autant plus, ça va être ma 16e année de présidence. Hein. Je ne suis pas éternel. S'il y en a qui veulent ma place, je leur cède bien volontiers. Hein. Je dirais que ça n'a pas toujours été le cas. Et l'UTB, dans la dynastie précédente, je suis que le deuxième pharaon, hein, avait des rapports quelquefois un peu difficiles avec telle ou telle structure chalonnaise. Bon, tout ça s'est passé, s'est oublié. L'eau de la Saône est passée sous le pont Saint-Laurent et on n'en parle plus. Donc, enfin, par construction, nous sommes coopératifs avec toutes les structures culturelles chalonnaises et autres, bien sûr. Donc, je vous propose maintenant de passer au vote du rapport moral. Oui, les bénévoles, mais je l'ai dit, les bénévoles, allez, les bénévoles, merci. Nous sommes 70 bénévoles. Merci à tous les bénévoles, il y en a beaucoup ici. Oui. Oui, vas-y, tu veux dire quelque chose ? Non. Non. C'est à tes risques et périls.
Ah oui.
Oui. Ben oui, tu avais. Ben oui. Oui, c'est un gars sérieux, c'est un Suisse.
Ah,
voilà. Bon, vote du rapport moral. Alors, qui s'oppose au rapport moral du président ? C'est moi. Moi, je ne m'oppose pas. Hein, je suis d'accord avec mon. Je suis d'accord avec moi-même. Hein. Qui s'abstient ? Et donc, je vous remercie de l'unanimité, mais extraordinaire, qui donne quitus à notre gestion de l'année précédente. Voilà, merci.
Nous pouvons remercier le président
de l'activité. Allumez le bouton.
Bien sûr, nous remercions. Ben oui, mais je parle assez fort. Le président pour l'activité qu'il a déployée durant cette période si difficile et qui nous permet quand même de pouvoir envisager l'avenir non pas sereinement mais quand même sans penser que nous ne pourrons plus y arriver. Si, nous allons y arriver. Merci monsieur le président.
Ça me va droit au cœur. Voilà. Merci. Bien, on passe à la deuxième phase classique des AG, c'est l'examen des comptes, hein, rapport comptable. Alors là, il faut que je mette mes lunettes parce que les chiffres sont petits. Alors, traditionnellement, je vais peut-être le faire avec le pointeur et en regardant l'écran, parce que là, j'y vois rien. Ah ben, il est là. Là, voilà. Alors, pour se rendre compte, je rappelle qu'on présente toujours le tableau de cette façon-là, c'est-à-dire l'année en cours, enfin l'année dont on parle, et les années précédentes. Et on met deux colonnes, ça permet de voir un petit peu la tendance. Ah, voilà le chiffre d'affaires. Je vais remonter à l'année, on va dire, normale. 88 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pas mal pour une association qui vit pour l'essentiel de ses cotisations, hein, et de quelques ventes de produits associés comme les livres. 2019-2020, ça avait un petit peu baissé, mais bon, c'était pas significatif. C'était lié essentiellement à une petite chute dans les ateliers. Mais vous voyez, évidemment, la marge d'escalier est tout à fait considérable ici. Alors, c'est pas difficile, sans parler de nombre d'adhérents. Vous voyez, on passe de 55 000 euros à 40 000 euros comme recette, et tout le reste est à l'avenant. Alors, on a un peu limité les dégâts par le fait que l'on a on a pu obtenir quelques aides de l'État. Muriel qui est là, donc notre secrétaire, je rappelle que nous avons une salariée à deux tiers de temps, hein, Muriel Sand, qui est ici. Merci Muriel, parce que sans Muriel, on est fichu, hein. Voilà, on a négocié avec le système de faire que, et bien sûr elle n'est pas venue, le bureau était fermé, et on a obtenu un temps partiel à 50%. Et donc, voilà. Je rappelle également que, je le dirai pour l'année qui vient, nous avons l'exonération des charges sociales. Et ça va finir par tomber du ciel. Hein. Et donc, ça va faire mal. OK ? C'est une dépense décalée. Hein. Bon. Alors, ça, c'est les produits. Alors, maintenant, on va passer... Ah ben oui, j'ai pas mis le... pas mis l'engin. Voilà. Ah ben non, je suis pas dans l'ordre. Voilà. Produit. Voilà. Alors, les dépenses, les charges dans le jargon comptable, elles sont du même ordre. Alors, supposez qu'on n'ait rien fait. Tous nos collègues n'ont rien fait. C'était tout boni, puisqu'ils ont encaissé les cotisations et ils n'ont pas fait de prestations. Nous, on n'a pas voulu jouer ce jeu-là. On a dit, non, on va faire le maximum. Donc, au bout du bout, on a fait une activité qui était quasiment en ligne avec nos ressources. Ce n'était pas étudié pour, mais ça s'est trouvé comme ça, si vous voulez. Et quand vous regardez là, vous voyez par exemple les honoraires des conférenciers et les ateliers, vous voyez qu'il y a une baisse tout à fait significative, mais qui était en ligne avec les ressources. Que dire de plus ? Donc je rappelle que on a un loyer du site Saint-Georges, qui est un loyer merci raisonnable. Hein. Disons qu'il y a la compensation des fluides, c'est-à-dire le chauffage et l'électricité, si vous voulez. Hein. Mais bon. Alors, quoi dire ? Alors, quand même, il faut toujours citer ce chiffre-là. Vous voyez qu'on fait des grosses dépenses de maintenance informatique et photocopieuse. C'est du service, si vous voulez. On est obligé de s'appuyer sur des professionnels. Les professionnels, ça a des tarifs de professionnels. C'est aujourd'hui, avec la complexité des systèmes informatiques, on ne peut plus se permettre de faire ça en amateur avec un adhérent sympa qui bidouille bien en informatique. C'est pas possible. On l'a jamais fait. Et on s'en trouve très bien. ça coûte cher, mais on a un service, hein, une fiabilité. Bon, sinon les frais de fonctionnement classiques, hein, et voilà, les amortissements ont eu le bon goût de baisser. Alors ça, c'était prévu, on l'avait vu venir, puisqu'on n'a plus fait. D'abord, tout notre matériel était relativement amorti, et là, la courbe était très descendante. Ouf, le Covid est arrivé pas trop tôt, quoi, on va dire, vis-à-vis de ce problème-là. Et donc, le résultat final, c'est 1 720 € de déficit. C'est pas si catastrophique que ça, dans la mesure où, à la fin de l'année précédente, je rappelle que c'était le premier confinement, on a fait un excédent, je rappelle l'exercice précédent, qui était de 6 000 €. Donc, on en a ponctionné un tiers ici. Donc, il nous reste encore 4 000 de potentiel. Mais alors, malheureusement, je vais vous annoncer des chiffres cataclysmiques pour l'exercice qui vient. Voilà. Et puis la synthèse, donc c'est le bilan, enfin qui reprend les éléments. Donc vous voyez que le poids économique de l'UTB, c'est 115 000 €. Ah, voilà la courbe d'amortissement que je présente toujours. Vous voyez qu'on a été très actif en investissement sur cette période-là, essentiellement des serveurs informatiques et des machines. Nous avons toujours eu la politique de nous payer nous-mêmes nos équipements. D'autres associations, soit n'ont pas les moyens de le faire, soit ne souhaitent pas le faire et demandent au coût le coût des aides à leurs autorités de tutelle. C'est bien, sauf que c'est pas responsabilisant, je dirais d'une certaine manière, et ça peut être aléatoire, et ça peut mettre en difficulté les choses. Donc, notre politique, jusqu'à ce qu'elle change, c'est que aide-toi, le ciel t'aidera, d'une façon générale. Alors, notre vérificateur au compte, tu peux dire quelque chose, il est là, hein. Attends, je vais te donner le micro. Non, attends. Tiens, cause dans le fil est assez long.
Donc, tout est écrit ici. J'ai effectivement fait, en fonction des données qui m'ont été fournies, effectivement, un contrôle de véracité des comptes. Alors, il est clair que dans cette situation, enfin, ce n'est pas lié d'ailleurs au Covid, mais d'une manière générale, Quand on fait ces vérifications, on ne vérifie pas toutes les écritures. On essaye de voir correctement que tout est cohérent, qu'il n'y a pas d'anomalie significative qui mériterait des explications complémentaires, voire des corrections. Et donc, c'est un contrôle qui, en l'occurrence pour l'ITB, est relativement facile à faire parce que je peux constater que la comptabilité est en fait très bien tenue, avec toutes les informations nécessaires, même s'il y a beaucoup d'informations manuelles qui sont données en complément, mais que c'est une situation qui, dans une entreprise qui n'est pas avec une très grosse activité, effectivement, est assez facile à contrôler. Donc voilà. Donc je considère que les comptes sont tout à fait sincères et en tout cas que répondent bien à ce que vous a présenté le président au titre de son trésorier. Merci.
Merci Michel. Alors, elle est bien tenue parce qu'elle est bien tenue, et grâce au trésorier, je crois qu'il faut le dire. Hein, c'est son métier, il était expert comptable, donc on a quand même quelqu'un de compétent, il n'y a pas de problème. Mais C'est pas si simple que ça parce qu'on a une variété d'activités qui est tout à fait qui est beaucoup plus grande que toute association classique qui a en général une activité principale. Des dépenses et des recettes. Nous, on ne fait pas ça sur un cahier d'écolier dépenses-recettes, on fait ça en comptabilité analytique de selon les règles des PME, si vous voulez. Voilà. Et le plan comptable. Donc, on s'y retrouve. Voilà. Oui, alors Marie-Jo qui se cache là-bas dans le fond et Aline qui se cache pas parce qu'elle est plus près. Donc je rappelle comment ça fonctionne. Donc Jean-Charles Borne qui est le trésorier passe en général une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois pour vérifier que les deux dames, donc Aline Gutfin et Marie-Jo Scalier qui est là-bas cachée dans le fond, font bien les opérations comptables, les virements, l'encaissement des cotisations, etc., etc. Et surtout des justificatifs. Il vous l'a dit, toutes nos opérations sont appuyées sur des justificatifs écrits. Hein. Il n'y a pas de choses fantaisistes. Voilà. Et donc c'est bien fait. Bon, mon intervention dans la trésorerie, elle est qu'à un seul moment, c'est que je suis le seul à avoir les clés d'accès au compte en banque en ligne. Voilà, puisque ma responsabilité personnelle est engagée là-dessus. Donc si je pique dans la caisse, c'est bien moi qui suis dans la cible de qui vous voulez. Mais voilà. Donc j'ai, et c'est super protégé, avec trois niveaux de sécurité, qui fait que même les dames qui font les travaux attendent avec impatience tous les mardis matins que je vienne ouvrir le coffre virtuel de l'UTB. Voilà. Eh bien, je vous demande de voter le rapport financier maintenant. Donc j'excuse à nouveau Jean-Charles Borne qui n'est pas disponible aujourd'hui. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de votre unanimité, toujours très touchante. Oui, alors, quels sont... je vais faire un sondage à la BFM, là, vous levez le... Il n'y a pas de honte à ça, quels sont ceux qui n'ont pas accès à Internet? Il y a, je vois, 4 ou 5 personnes, voilà, sur les centaines de personnes qui sont ici. Ce n'est pas un reproche, hein, c'est comme ça. Mais effectivement, le fait de ne pas avoir accès à Internet, il y a deux difficultés. C'est, évidemment, vous ne pouvez pas écouter les conférences, mais surtout, c'est les informations qui sont susceptibles de vous manquer. Donc je rappelle qu'on a, alors c'est le moment d'en parler, le bulletin mensuel. Je vois que Muriel me fait les gros yeux, il faut absolument que j'en remette une couche, hein. Donc depuis le début de l'UTB, pratiquement, on a un petit polycope dans lequel il y a l'ensemble des activités du mois N plus 1, qui s'appelle le bulletin mensuel. On recueille au moment de l'inscription, si vous n'avez pas Internet, votre souhait d'avoir ce bulletin mensuel, et donc on vous l'envoie par le courrier, il n'y a pas de problème. En général, ce n'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, ce sont les gens qui ont Internet, mais qui sont un petit peu paresseux, hein, je vais dire, je vais être gentil, pour télécharger et imprimer le bulletin. Il faut vraiment, quand vous recevez le mail tous les mois, qu'on vous envoie en disant « voilà, le bulletin mensuel est téléchargeable en cliquant ici », il apparaît sur votre écran, vous l'enregistrez sur votre ordinateur. Si vous ne savez pas faire, vous l'imprimez tout de suite et vous en avez une copie papier. Et surtout, ne regardez pas uniquement le tableau des conférences, qui est en général à la deuxième page. Voilà. Mais lisez la prose que je vous mets. Alors, je sais bien que c'est casse-pied de lire une prose comme ça, mais les informations essentielles, j'essaye de les synthétiser ici. Je les mets d'une part dans le mail et d'autre part dans le petit édito qui est devant la chose. Et surtout, surtout, les ateliers. Les ateliers, on nous dit sans arrêt, « Ah ben oui, mais moi je ne savais pas qu'il y avait un atelier. » Dans les ateliers, à la fin du bulletin, il y a un tableau qui est les ateliers du mois N+1, avec les salles, les heures et les convocations. Donc, si vous êtes inscrit à des ateliers, par pitié, lisez bien cette partie-là. Ah, vous voyez, Muriel, je ne peux pas faire plus. Hein. Parce que depuis une semaine, elle me remonte la pendule en disant « il faut parler du bulletin ». Donc, j'ai parlé du bulletin. Voilà. Merci, Muriel. Mais j'en parlerai encore, il n'y a pas de problème. Bien. Ensuite, on passe à l'élection du conseil d'administration. Alors voilà, donc je rappelle que dans nos statuts, nous avons un nombre maximum d'administrateurs de 14 personnes. Bon, les hasards des cycles de renouvellement, c'est tous les 3 ans, mais avec les départs, les choses comme ça, il n'y a que 2 personnes à renouveler au sens classique des conseils d'administration. Donc, elles se représentent toutes. Je rappelle aussi quelque chose que je peux souvent dire. Par définition, les gens qui sont au conseil d'administration sont des bénévoles. Puisque pour être au conseil d'administration et avoir un impact significatif dans la gestion de l'association, il faut bien la connaître. Et Dieu sait si l'UTB, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'activités diversifiées. Si vous n'êtes pas... si vous vous pointez comme les carabiniers à la dernière minute en disant « je voudrais être au CA », pourquoi pas ? Mais encore faut-il que vous ayez fait vos marques, si vous voulez, dans l'association. Donc toutes les personnes qui sont là sont bien sûr dans ce cas. D'ailleurs, c'est une grosse difficulté, c'est que toutes ces personnes, elles prennent un an tous les ans, comme tout le monde. Hein. Et donc, la moyenne d'âge n'est pas en baisse. Je parle de la moyenne. Hein. Bien, donc, est-ce qu'il y a des gens qui contestent cette liste-là ou qui souhaitent moi, celui-là, je ne veux pas qu'il soit au CA. Hein. Voilà. Je n'entends rien. Là, si, il y a Muriel là, qui s'agite, là. Non ? Comment ? Oui. Alors, vous ne les connaissez pas. Alors, monsieur Hervieux, est-ce qu'il est là ? Voilà. Alors, monsieur Hervieux... Ah ben, restez un peu debout, on n'a pas eu le temps de vous voir. Donc, monsieur Hervieux, il m'aide un petit peu dans la partie système informatique, hein, gestion du site et voilà. Monique Roux, est-ce qu'elle est là ? Non, elle n'est pas là. C'est une conférencière. Jean-Paul Offrand, est-ce qu'il est là ? Non. Michel Beaumont, elle est là. Jacqueline Bellorger, lève-toi. Donc, qui s'occupe de la communication de l'UTB. Hein. Jean-Charles Borne, il est absent. Liliane Doutet, elle est là. Yves Fournier, il est là. Tonia Gandin, elle est là. Elle est là. Je ne l'avais pas vue tout à l'heure. Elle s'occupe des entrées. Hein. Ah, je rappelle, oui, tiens, c'est l'occasion d'expliquer un petit peu comment ça marche. Je dis ça surtout pour nos édiles. Là. Quand on a su qu'il faudrait contrôler le pass sanitaire, on a eu un petit moment de panique, comme dans beaucoup de structures. Et on a trouvé une astuce, toujours très intelligente, qui consiste à dire on va vérifier une fois l'existence du pass avec les outils habituels, soit au bureau, soit ici, et on va enregistrer dans notre base de données le fait que les gens aient bien le pass sanitaire. Et donc, quand on passe la carte au contrôle d'entrée, eh bien, si les gens n'ont pas de passe sanitaire, il y a une alerte et on demande qu'ils présentent leur passe. Et si ils n'ont pas de passe, ben on les éjecte. On n'en a pas beaucoup éjecté depuis le début. Et donc les gens sont disciplinés. Donc ça marche pas mal parce que sinon ça fait un goulet d'étranglement à l'entrée. Jean-Louis Grinenval, il est là-bas dans le fond. Jeanne-Marie Michel, elle est là, elle s'occupe des ouvrages. Françoise, elle est là, vice-présidente. Marie-Jo, on en a parlé. Elisabeth Vallot, elle est là, voilà, là-bas dans le fond. Bien, donc, j'ai compris que vous acceptiez cette composition du conseil d'administration. Donc, je vous en remercie et donc je considère que ces membres sont renouvelés sans autre forme de procès. Alors, je le dis pour ceux qui souhaiteraient faire partie du conseil d'administration dans les années qui viennent. Donc, il faut qu'ils se présentent comme volontaires, bénévoles, pour faire une activité quelconque, à discuter avec eux. Et puis, une fois qu'ils ont passé un an pour travailler un petit peu dans le système, eh bien, ils peuvent prétendre tout à fait légitimement faire partie du conseil d'administration. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Bon, ça, c'est des choses que je vous ai déjà dites, hein. Je regarde si... Oui, alors, quelques points que je n'ai pas encore évoqués, là. Depuis 2 ou 3 ans, nos prestataires nous ont dit, vos serveurs, comme nous, prennent 1 an tous les ans. Et dans l'informatique, ça va vite, hein. Donc, il va falloir s'en occuper. Alors, on était très embêtés parce qu'on ne savait pas trop comment s'y prendre. Et en fait, il y a des événements extérieurs qui nous ont poussés un petit peu dans les cordes. C'est le problème de l'obsolescence, non pas des machines, mais des systèmes d'exploitation. On avait des Windows qui sentaient un peu la naphtaline. Hein. On avait encore des Windows 2002 sur certains serveurs. Et là, de plus en plus de petites applications annexes ne fonctionnaient plus et faisaient que ça ne marchait plus. Et donc, je vais tout de suite à la conclusion. Ça s'est passé au mois de juillet de cette année. Quand on a voulu installer, quand notre professionnel a voulu installer les antivirus, il n'est pas arrivé. Parce que, à cause de ces problèmes de compatibilité avec 2 versions de Windows. Il a dit, il faut faire quelque chose, quoi. Et je vais faire court. On a finalement pris la solution de louer un serveur de virtualisation. Alors, c'est de la technique, je ne veux pas vous embêter avec ça. C'est un énorme serveur en termes de puissance, mais tout petit en termes de taille, qui a une puissance qui est à peu près 10 fois celle des serveurs que l'on avait avant, et qui permet d'être... C'est les techniques qui sont utilisées dans le cloud, si vous voulez. Mais c'est un cloud local. Et donc, après beaucoup de péripéties, on a été pris un peu à la gorge, et j'ai décidé, comme un grand pendant les vacances, de lancer ça et de signer tous les contrats, évidemment, par Internet, sans papier, sans rien. Il faut suivre les événements. C'est incroyable ce qui se passe du point de vue organisation pendant les vacances. Le développement de la base de données pour mettre le pass sanitaire, ça a été fait entre le 9 et le 15 août de cette année. Si vous n'êtes pas là, ça ne le fait pas. Voilà. Alors, et autre problème, c'est qu'on découvre tous les jours que l'incident au VH qu'on avait cru, disons, sans réplique, bah, il n'est pas exempt de réplique. Ici ou là, il y a des trucs qui ne marchaient plus. Et il faut remettre un petit peu d'heures et des rustines ici ou là dans le système. Et donc, voilà, bon, ben. Alors, pour couronner le tout, on a eu un gros pépin à nouveau. Alors, ça date de 3 semaines à peu près, hein, 3 semaines, 1 mois. On a eu 2 grosses pannes de courant au site Saint-Georges. Bon, ça arrive, les pannes de courant. Et puis, quelques jours après, on s'est rendu compte que alors, tous nos serveurs sont protégés avec ce qu'on appelle des onduleurs. C'est-à-dire, s'il n'y a plus de secteur, si vous voulez, il y a des batteries qui donnent du courant alternatif et qui donnent la continuité de service. Si ça dure plus de 10 minutes, le système, les onduleurs arrêtent automatiquement les machines. Et puis, dès que le courant revient, ça redémarre tout seul. Et puis, on a découvert que d'abord un onduleur, puis après 2, était mort. Bon, c'est la vie, hein, c'est du matériel. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'on a eu des témoignages de l'origine, enfin, supposée de cet incident. Et l'origine supposée de cet incident, ce serait, je parle bien au conditionnel, donc on a eu des échanges avec les services de la ville, là, et c'était toujours en cours d'instruction, ce serait le fait d'utiliser les voitures électriques des services qui sont dans la cour du site Saint-Georges. Jusqu'à présent, il y en avait une, et il y en a eu une deuxième. Et la puissance du réseau local n'était pas suffisante pour accepter la charge simultanée des 2 voitures électriques. Et là, tout est tombé. Et là, ça envoie des pêches dans le... au moment de la rupture du courant, qui fait que ben, les onduleurs, ils n'ont pas bien aimé. Et on a encore découvert un troisième appareil qui a aussi sauté comme ça. Donc, on a remplacé. On est en discussion avec notre assurance pour essayer de récupérer des choses. Et puis, on a mis le dossier d'incident dans les mains de nos correspondant de la ville. Maxime Ravenet est bien au courant de ce dossier. Voilà, mais c'est en cours d'instruction. De toute façon, on fait ce qu'il faut pour résoudre les problèmes, puis après, on discute. Voilà. Alors, dans cette saison, ben, on a quand même réussi à faire enfin un voyage qui était prévu depuis longtemps. C'est le voyage à Amiens qui s'est passé fin août, début septembre, de 5 jours. J'y ai participé. C'était très bien, il faisait beau, en baie de Somme et tout, bon, très bien. Sauf que les témoignages qu'on a eus, qui correspondent exactement à tout ce que vous savez, le chauffeur de l'U-Voyage nous a dit « Vous êtes mon premier voyage de plusieurs jours depuis 18 mois. La guide de la cathédrale d'Amiens, vous êtes mon premier groupe depuis 18 mois. » Mon premier groupe, voilà. Le tourisme, et surtout autocariste, est dans un état, disons, absolument catastrophique, parce que ça n'a toujours pas véritablement repris. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on va essayer de reprogrammer les voyages qu'on avait annulés. Donc, je rappelle ce que l'on avait prévu l'année dernière au printemps, hein, donc d'aller à Citeaux et à Soulaine. Soulaine, c'est un site d'entreposage en surface de déchets faiblement radioactifs, d'aller au musée des Beaux-Arts à Dijon, en visite guidée, d'ailleurs c'est même tout payé, mais c'est au frigo, et d'aller chez Infineo, qui est une société qui est en Côte d'Or, à côté de Beaune, qui fait du recyclage de bouteilles plastiques, hein, et qui nous avait fait une conférence d'ailleurs sur ce sujet-là, juste avant le confinement. Et donc, on prévoit 2 voyages nouveaux. Lille et sa région, puisque finalement, Amiens, ben, ça nous avait bien plu, donc on a un autre pôle d'attraction, ça peut être Lille, puisque l'idée dans les voyages, c'est de faire une ville d'accroche pour l'hôtellerie, si vous voulez, après de rayonner, pour éviter des transferts en permanence entre les hôtels, c'est pénible. Et donc, ben, les dames qui sont là s'occupent des voyages, donc elles sont en train de mettre ça au point. Et un deuxième voyage donc à ITER. Je rappelle qu'on est allé une fois à ITER en 2017. ITER, c'est le réacteur de fusion qui est à Cadarache, qui est en cours de construction. Pour attirer, puisque c'est plutôt les messieurs qui sont intéressés par la technique et plutôt les dames qui sont intéressées par les visites un petit peu touristiques. Donc l'intérêt de coupler un sujet technique et un sujet culturel et touristique, c'est de remplir le bus, c'est bien clair. Et donc la dernière fois, on était allé à Aix-en-Provence et à Avignon. Et là, on irait à Arles, hein, voyage, enfin Arles et sa région, culturel. Et donc ça, ce sera début mai. Ah, pourquoi j'ai mis ça? Tout simplement parce qu'il faut avoir des chambres au château de Cadarache. Et les chambres au château de Cadarache, c'est la maison d'hôte du centre du CEA de Cadarache. Il faut y aller au couteau, un an à l'avance, pour avoir des places. Et au couteau, on a eu les places au château de Cadarache les 3 et 4 mai 2022. Voilà. Parce qu'il faut se battre aussi. Hein, voilà. Et donc, si tout va bien, on ira en Irlande. C'est le quatrième report. Tout est payé. On ira en Irlande. J'irai en Irlande, puisque c'est moi qui ai fait le programme. Donc, fin mai 2022. Voilà. Alors, perspective économique. Donc, je vous l'ai laissé entendre. Donc, prévision de déficit très important. Le renouvellement du serveur, ben, on est la corde au cou, on y est passé. Hein, donc, on l'avait pas. Enfin, on se doutait bien que ça arriverait, mais là, maintenant, il a fallu y passer. Le charge de remboursement des remboursements de charges sociales. Et puis, il va falloir taper dans la cagnotte. On a quand même une petite cagnotte qui nous permet de ne pas mettre la clé sous la porte. Encore. Hein, faudrait pas que ça dure trop longtemps. Donc, on a demandé, à travers le processus des demandes de subvention, une aide exceptionnelle à la ville de Châlons. Donc, ça sera instruit dans les circuits habituels de demandes de subvention. Et puis, on verra bien. De toute façon, on prendra pour nous sûrement une part significative du déficit qui, maintenant, sera évident. À moins que, vraiment, tout ça s'éclaircisse à la limite au mois de février, mettons, et qu'on ait quelques compléments d'adhésion à la mi-saison. Ça nous arrive tous les ans, disons vers le mois de février. Bon, il y a des gens finalement qui viennent. Enfin, ça restera marginal.
Il y a une réunion générale des nouveaux
Oui.
Qui est orienté très nouveaux arrivants. Et sur cette soirée-là.
Tiens, il y a ces longs de fil là. C'est bon.
Merci. Donc sur cette soirée-là, l'ensemble des associations, enfin pas une par une, parce qu'il y a environ 600 associations sur Châlons, hein, sont présentées dans leur activité. En tout cas, on montre aux nouveaux adhérents quels sont les secteurs associatifs qu'il y a sur notre ville et sur notre agglomération. Le site internet pour pouvoir les trouver, les contacts, etc. Donc, alors je vous cache pas que si on dit à l'UTB de venir, il y a 599 autres associations qui vont dire « Nous aussi, on voudrait bien venir à cette soirée ». Par contre, voilà, on présente l'ensemble du tissu associatif.
Mais on pourra au moins diffuser nos plaquettes.
Exactement. Par contre, la diffusion des plaquettes est possible. Et en vous écoutant, et je rebondis sur ce que vous dites, je pense qu'il y a une petite réflexion à faire autour de la communication, justement.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, il y avait, vous fonctionnez beaucoup en vase clos et par le bouche à oreille.
Oui.
Je pense qu'il y a peut-être justement quelque chose à faire maintenant pour faire découvrir un plus large public
Oui. Ce
qu'est l'UTB. Parce Oui. Que voilà, ça mérite vraiment d'être connu. Mais je pense que si on fait un petit sondage dans la rue,
on sait bien.
On se rend compte que c'est une association qui n'est pas très connue du grand public. Oui. Elle est connue par les personnes qui
sont à l'UTB, bien
voilà.
Sûr.
Ouais. Donc, je ne sais pas sous quelle forme, etc., mais à mon avis, c'est un...
On a des petits flyers, si vous voulez, mais on a fait quelques tentatives par les années passées. On n'a pas senti que ça avait un impact extraordinaire. Oui. Oui. Oui, mais là, ça devient difficile parce que les commerçants refusent de plus en plus d'avoir des affiches parce que c'est le problème de taille des affiches. Hein. Comment ? Oui, il faut faire du A4, mais même avec du A4, ça marche très mal. Il y a eu une époque où les gens acceptaient volontiers de mettre des affiches. Maintenant, il n'y a que des affiches Covid. Hein, donc, il n'y a pas la place pour mettre des affiches UTB. Hein. Ben, la presse, oui. Oui. Alors, je rappelle qu'au Conseil communautaire, disons du mois de juillet, on a pu distribuer des petits sacs qui est orienté mairie et surtout mairie des nouveaux arrivants, des nouvelles communes, si vous voulez. Ils les avaient pas vus. Ben oui, ben ça. Ben oui, mais il faut persévérer, si vous voulez. Hein. Il faut persévérer. Oui. Oui. Ah. Bon, ben, Jacqueline va s'en occuper.
Alors, ben, du coup, ça, c'est une information que je ne savais pas, donc je vais le noter.
Voilà.
Il faut qu'on... Enfin, c'est fondamental.
Bien, vous voyez que ces réunions sont utiles parce que ça nous permet d'avoir un lieu d'échange et de communication. Voilà. Alors, projet à 2 ans, j'ose pas dire à 10 ans, hein. Ben, le site internet, il va avoir les mêmes problèmes que l'informatique matérielle. C'est que les technologies, ce site maintenant, il a 8 ou 9 ans. 8 ou 9 ans, les technologies de codage des pages Internet, eh ben, ce n'est pas celles qu'on utilise aujourd'hui. Et notre développeur nous dit, ben, écoutez, c'est bien, mais maintenant, l'écosystème des sites UTB est devenu d'une telle complexité que quand on met une rustine quelque part, on a peur que tout le château de cartes s'écroule. Donc il nous faudrait, maintenant on a des outils plus modulaires, si vous voulez, pour pallier cette difficulté potentielle. Donc il faut s'en occuper, quoi. Voilà. Donc on va s'en occuper, c'est aussi bête que ça. Et donc on va avoir une première réunion d'un petit groupe de réflexion interne, là, aussi bien qui, bien sûr, j'y participerai bien sûr, mais il y aura au moins 2 personnes qui seront la sensibilité adhérent de base, c'est-à-dire je suis l'utilisateur. Je ne sais pas du tout comment tout ça s'est fait derrière, ça ne m'intéresse pas, mais moi ce que je veux c'est que ça marche, et ça, j'y comprends rien, c'est mal foutu, voilà, et donc qu'on ait un ressenti d'un utilisateur de base. Voilà. parce que c'est toujours le top-down, c'est bien, hein, le gars qui sait tout, machin, le président, il est omnipotent, omniscient, hein, mais il fait aussi des bêtises. Hein, il a pas, il sent pas forcément toujours les choses qui ne vont pas bien. Hein. Voilà. Alors, donc, les serveurs, ben, on a fait quelque chose. Alors, je rappelle quand même, voilà la vidéo d'une conférence, on avait rajouté un petit onglet vidéo qui nous permettait d'avoir donc de voir cette vidéo uniquement pour les gens de l'UTB. Alors, je suis obligé d'être optimiste jusqu'à demain soir, vous voyez ce que je veux dire. On va continuer comme on a fait là, finalement, le mois d'octobre, ça s'est bien passé ici. Et aujourd'hui, les frileux qui ne veulent pas revenir, on peut bien insister, ils ne reviendront pas au moins cette année, hein, avant que la situation générale s'éclaircisse. Donc la seule ressource potentielle pour avoir quelques ressources supplémentaires, c'est de trouver des nouveaux. Donc je demande à tous ceux qui sont là d'en remettre une couche et de faire un battage terrible auprès de nouveaux adhérents. Voilà. Vous savez, 20 de plus, ça fera 20 de plus, vous faites la multiplication. 20 multiplié par 80, c'est pas extraordinaire, mais ça se voit. Hein. Alors, là, on arrive à la phase qui est toujours la plus délicate. C'est le, comment dire en français, le bottom top. Hein, c'est-à-dire le retour de la base. Voilà. Vos dirigeants, j'espère que vous en êtes conscients, puisque vous avez dit tous unanimement que vous étiez contents, font le mieux qu'ils peuvent pour essayer d'animer notre association. Mais on souhaiterait souvent d'avoir des remontées d'informations sur des suggestions diverses et variées. Alors, je vous écoute. Combien il y avait de personnes nouvelles? Alors, oui, alors, adhérents nouveaux, je l'ai sur un tableau, je suis passé assez vite. Oui, je vais vous le montrer. Voilà, non, c'est pas là. Il a disparu, ce tableau? Non, il est là. Voilà, il y a 53 à ce jour. Et il y a 47 réinscriptions. Alors ça nous a un peu surpris au premier degré. Réinscription, ça veut dire que les gens n'étaient pas là l'année dernière, mais étaient inscrits les années précédentes. Alors on a dit, d'habitude, il y en a 10. Qu'est-ce qui se passe? Alors, au bout d'un moment, on est bête, mais on a fini par comprendre. C'est ceux qui, au 15 septembre de l'année dernière, ont anticipé le fait que tout allait se bloquer. Ils ont dit, je n'y vais pas. Et je ne paye pas ma cotisation. Voilà. Parmi ceux-là, il y en a 49 qui sont revenus. Donc merci à eux. Ce qui fait que l'écart avec le chiffre de l'année dernière, il n'est pas gigantesque. Hein, parce que 516, c'était à la fin de l'année. En fait, à la même époque, l'année dernière, on était à 500. Donc aujourd'hui, il nous en manque 20, si vous voulez, par rapport à date, par rapport à la situation de l'an dernier.
Alors, question.
Oui. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, il y a monsieur.
Oui, levez-vous. Est-ce que vous pouvez venir là pour parler dans le micro, parce que tout le monde vous entende?
Jean Desbois, Je voudrais savoir, est-ce que sur le site, on a un compteur des visiteurs ?
Non. Ah ben, on a, si, on peut avoir un compteur des visiteurs, mais il y a un outil qui est l'outil Google, Google Analytics,
oui.
Qu'on voit, mais c'est assez difficile de l'interpréter, si vous voulez, parce que c'est pas parce qu'on clique sur le site qu'on y passe du temps. Alors, il y a un paramètre, il y a deux paramètres qui sont donnés, c'est le temps moyen passé sur le site, qui fait la moyenne entre les gens qui font que le clic et les gens qui restent longtemps sur le site. Oui, il y a beaucoup de participants, mais les gens qui se vantent en disant « j'ai 30 000 connexions », ça ne veut rien dire parce qu'ils ont 30 000 connexions, les gens ont cliqué une fois sur le site et ils n'ont rien fait sur le site, si vous voulez. Donc, c'est assez difficile à interpréter. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est, d'ailleurs, on va essayer de le mettre dans la nouvelle mouture du site, c'est de voir les gens qui téléchargent les documents. Donc, c'est un meilleur indicateur. Hein.
Deuxième question, là, par rapport au site. Vous nous parlez en disant il faut qu'on se fasse connaître, etc. Est-ce qu'il serait possible d'avoir sur le site non pas que des titres de conférences, mais aussi des extraits des conférences précédentes.
Enfin, ça existe déjà.
De 5 à 10 minutes,
ça existe.
que les extérieurs puissent voir.
Ça existe déjà. Je vous accorde que ce n'est pas d'une visibilité extrême, c'est dans la page adhérents distants. On pourrait mettre un bouton qui permette d'y aller plus directement. D'ailleurs,
mais pour des gens extérieurs. Hein.
Oui. Non, mais,
pas être adhérent.
Oui, ben justement. Pour... Mais, aujourd'hui, c'est accessible. Mais bon.
Ok.
Attendez. Voilà. Voilà. Donc voilà notre site. Alors globalement, vu de notre point de vue, il nous paraît bien. On a quelques critiques à faire par rapport. Ben, évidemment, le concepteur est toujours satisfait de son travail, sauf à la marge, si vous voulez. Mais c'est ça qui nous manque, si vous voulez, c'est de dire, ben oui, mais non, moi je trouve rien, je sais pas. Alors. Pour les paresseux du mail et du bulletin, je rappelle pour la énième fois que le bulletin, il est là, dans la colonne de gauche, téléchargement, bulletin mensuel de novembre, machin. Et voilà.
Donc moi, je ne l'imprime pas pour faire des économies par rapport à l'environnement.
Comment ?
Je ne l'imprime pas puisqu'il est déjà là.
Non, mais c'est ceux qui ont des smartphones. Voilà, mais il faut le lire. Le problème, c'est pas tellement de l'imprimer, c'est de le lire et de capter les informations. En fait, il y a beaucoup d'informations dessus, et en particulier les ateliers. Voilà. Alors, je reviens sur la question du début, là. Où sont adhésion et achat à l'UTB ? Vous allez sur adhérents distants et vous allez. Ici, et vous allez ici, et vous avez des magnifiques exemples. Alors, je vous accorde qu'on aurait un bouton qui permette d'y aller tout de suite, tout à fait en haut de la page, ce serait mieux. Et ça, c'est une des améliorations qu'on envisage de faire. Donc, par exemple, je vais mettre voilà. Ah ben oui, mais j'ai pas le... Mais non, mais les haut-parleurs sont coupés, là. Donc, je peux pas, voilà.
Jeudi 9 avril. Je veux dire que la demande initiale était un petit peu...
Alors, je vais essayer de vous le mettre sur le... Attendez, non. Je vais vous mettre le son. Ah, vous êtes exigeants, les gars. Où est-ce qu'on a mis le petit câble, là? Ah, il est là, voilà. Attends. Ouais. Quand on nous demande quelque chose, on essaye de... Attendez. C'est sur le côté. Et c'est là.
De la cardiologie à une pathologie particulière, et de voir dans ce champ-là quels sont les grands progrès qui ont eu lieu.
Vous avez le docteur Bellinger, ici.
Première chose.
Qui nous Deuxième a fait une chose, confiance.
Et j'aime bien le dire en préambule dans ce genre de
situation. Regardez la qualité de la prise de son audio.
Il est évident que ce dont on parle est une sorte de généralité. Et que donc, il est hors de question que ce que vous entendiez là s'applique à tel ou tel qui a un problème cardiaque. Voilà. La situation individuelle est revue avec votre médecin et votre cardiologue. L'enjeu d'aujourd'hui...
Alors, vous avez ça. Restez devant son ordi à écouter M. Dellinger, qui est parfait et tout, ça peut paraître un peu casse-pied, parce que ça dure une heure et demie. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit les technos filent ont des smartphones qui ils mettent le fichier sur leur smartphone et ils écoutent ça sur... Mais en général, les papis sont pas très branchés avec ce genre de choses. Par contre, je vais vous donner un exemple de gens qui font ça, c'est qu'ils ont un autoradio. Et ils font des trajets, domicile, travail, tous les jours. Et au lieu d'écouter France Inter ou n'importe quoi, ils écoutent les conférences de l'UTB. En mettant... Mais il n'y a pas les images. Mais dans beaucoup de cas, les conférences, c'est comme la radio. Hein. Il n'y a pas d'image à la radio, hein. Jusqu'à présent. Hein. Voilà. Et puis sur la route, c'est pas terrible. Mais vous vous baladez, vous pouvez aussi écouter des conférences en vous baladant, si vous voulez. Il y a un certain type de conférences où l'essentiel du message passe du point de vue oral. Et le fait de ne pas avoir d'image n'est pas un handicap terrible. Si vous avez une conférence d'histoire de l'art avec des tableaux, évidemment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais dans d'autres cas, la philosophie, par exemple, si vous aimez la philosophie, l'histoire des sciences, l'histoire en général, l'histoire s'y prête bien, si vous voulez. Hein. Et donc, vous pouvez écouter les conférences de cette façon-là. Voilà. Donc, on a déjà aujourd'hui un accès, je vous l'accorde pas très direct, ça c'est quelque chose qu'on peut changer, pour que des gens qui sont pas à l'UTB puissent se rendre compte de la qualité de ce qu'on fait. Parce que en général, le secret de la réussite, c'est ça. Vous remarquez d'ailleurs à la télé, de plus en plus de présentateurs ont ce type d'outils. Parce que quand vous prenez le son dans l'ambiance, et surtout cette salle, elle est terrible, il y a un écho, une réverbération absolument pas possible, qui fait que il y a des conférences qu'on a eu du mal à entendre ici, même avec tout notre équipement, même avec ça, quand vous écoutez l'enregistrement, c'est distinct. Surtout en particulier des jeunes, qui ont l'inconvénient aujourd'hui de parler comme des mitraillettes. Vous avez déjà dû remarquer ça. Et donc, on a du mal à capter un petit peu l'expression du conférencier ou de la conférencière. En général, c'est les dames qui ont un peu ce débit très rapide. Voilà. Dans celles qu'on connaît. Voilà. C'est pas du tout misogyne. Je vois tout de suite qu'on me fait les gros yeux, alors. Donc. oui, donc, d'autres, d'autres commentaires quelconques ? Alors, j'en fais un, moi, que j'ai oublié de faire. Ici ou là, on peut avoir fait des maladresses, des choses, et on a eu quelquefois des remarques un petit peu acidulées du style « Ah ben non, mais c'est nul hein. ». Alors, oui, effectivement, c'est nul. La personne qui fait ce commentaire-là, elle est la bienvenue pour venir occuper la place du bénévole qui n'a pas, disons, rempli sa fonction dans toute sa dimension. Voilà. Nous sommes tous des bénévoles, nous ne sommes pas des professionnels, nous faisons tout ce que nous pouvons avec nos compétences, notre bonne volonté, tout ce que vous voulez, mais il faut accepter l'erreur ou le manque ou la difficulté, hein. C'est tout. Hein. Nous ne sommes pas, alors je n'ai pas encore prononcé la phrase, mais je vais la prononcer pour la 25e fois, nous ne sommes pas une entreprise de spectacle culturel. Quand vous adhérez à l'UTB, vous n'adhérez pas à des conférences, vous adhérez au but de l'association. Adhésion, ça veut dire une adhésion intellectuelle. Voilà. Accessoirement, ça vous permet d'accéder aux prestations que nous faisons. Le mot adhésion, c'est du français, ça a une signification qui n'est pas une signification de post-it. Adhésion, ça ne veut pas dire qu'on colle quelque chose. Ça veut dire qu'on adhère, qu'on accepte l'objectif de l'association auquel on s'associe. Voilà. Donc, en particulier, c'est pour ça qu'on résiste furieusement, depuis que l'UTB existe, au paiement à la séance. Nous ne sommes pas un cinéma culturel. On accepte ponctuellement de faire des paiements à la séance si nous avons décidé de donner cette option au grand public. Donc je rappelle notre politique vis-à-vis de ce point-là. Pour toutes les conférences d'intérêt général, c'est-à-dire qui concernent la santé, elles sont accessibles à tout public gratuitement. Toujours. Toujours. Pour celles qui sont d'intérêt général, mais qui ne sont pas liées à des thématiques de santé, eh bien, on demande une entrée de 5 euros. C'est tout à fait symbolique, mais il faut que ça soit annoncé au départ, si vous voulez, sur le site. C'est nous qui menons la barque, et Dieu sait si on a eu des adhérents qui nous ont bassinés du début jusqu'à la fin, en disant « Mais pourquoi vous ne faites pas paiement à la séance ?» Parce que ce que je viens de vous dire. Et c'est une question de philosophie. Et on nous a aussi demandé quelquefois, alors là j'ai hurlé plusieurs fois, de faire des tarifs pour les couples. Je rappelle que l'adhésion, c'est une décision individuelle. Individuel. Le tarif pour les couples, eh bien, c'est le même tarif pour le monsieur et la dame. C'est l'égalité entre les sexes. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, pas d'autres questions ou remarques. Donc, je vous remercie d'être venus nombreux. Vous avez. Eh bien, on va continuer comme ça. Et merci encore et bonne journée et à demain. Donc demain, je rappelle que nous avons une conférence un petit peu exotique qui va nous parler c'est une conférence scientifique sur la police scientifique, c'est-à-dire quelles sont les méthodes qui sont utilisées par la police scientifique. Oui, il faut le rajouter. Oui. Je vois que vous vous occupez encore bien de l'instruiser.
Sébastien.